Seconde partie. Tout se passa comme l'avaient prévu Béatrix et sa belle-mère, et le matin, lorsqu'on trouva le cadavre arrêté encore dans les branches du sureau, chacun crut que le pied ayant manqué à Francesco sur cette terrasse où il n'y avait pas de parapet, il était tombé et s'était tué ainsi. Il en résulta qu'au milieu des mille déchirures dont le corps était couvert, on ne fit aucune attention aux blessures faites par les deux clous. Les femmes, de leur côté, au moment où elles apprirent cette nouvelle, sortirent en jetant de grands cris et en versant beaucoup de larmes, de sorte que si quelqu'un avait pu concevoir le moindre soupçon, une douleur si vraie et si profonde l'eût à l'instant même dissipée. Aussi, personne n'en conçut, excepté la blanchisseuse du château, à laquelle Béatrix donna à laver le drap qui avait enveloppé son père, lui disant que cette grande quantité de sang qui le tachait venait d'une perte qu'elle avait éprouvée pendant la nuit. La blanchisseuse la crut, ou feignit de la croire. Néanmoins, dans le moment, elle ne dit point un mot de cette circonstance, de sorte que, les funérailles accomplies, les deux femmes retournèrent sans empêchement à Rome, où elles se promettaient enfin une existence plus tranquille. Pendant qu'elles y vivaient sans inquiétude, mais peut-être point sans remords, la justice de Dieu, à son tour, commençait son œuvre. En effet, la cour de Naples avait appris la mort subite et inattendue de Francesco Cenci, et, ayant conçu quelques soupçons que cette mort n'était point naturelle, elle avait envoyé un commissaire royal à Petrella pour faire exhumer le cadavre et rechercher sur lui les traces de l'assassinat, si, effectivement, l'assassinat avait eu lieu. Aussitôt l'arrivée de ce commissaire, tous les habitants du château furent arrêtés et conduits enchaînés à Naples. Mais aucun indice ne fut trouvé, si ce n'est la déposition de la blanchisseuse qui déclara que Béatrix lui avait donné à laver un drap taché de sang. Cependant, cet indice fut terrible, car, interrogée, si, dans son âme et conscience, elle croyait que ce sang vint de la cause qu'avait dite Béatrix, elle répondit qu'elle ne le croyait pas, attendu que les taches lui avaient paru trop vives et trop rouges pour cela. Cette déposition fut envoyée à la cour de Rome, mais sans doute, elle ne parut point suffisante pour entraîner l'arrestation de la famille Cenci. Plusieurs mois s'écoulèrent donc encore, sans qu'elle fût inquiétée, et pendant lesquels le plus jeune des fils mourut. Des cinq frères, il n'en resta donc plus que deux, Jacques qui était l'aîné et Bernard qui était le penultième. Pendant ce temps, certes, ils eussent pu se sauver et gagner Venise ou Florence, mais ils n'en eurent pas même l'idée et restèrent à Rome attendant les événements. Cependant, Monsignor Guerre apprit que, pendant les jours qui avaient précédé la mort de Francesco, Marzio et Olympio avaient été remarqués rôdant autour de la forteresse, si bien que la police de Naples avait donné ordre de les arrêter. Monsignor Guerre était un homme de précaution et qu'il était difficile de prendre en défaut lorsqu'il était prévenu à temps. Il fit venir deux autres sbires qu'il chargea d'assassiner Marzio et Olympio. Celui qui était chargé d'Olympio le joignit à Terni et le poignarda consciencieusement comme il s'y était engagé. Mais celui qui devait dépêcher Marzio arriva malheureusement trop tard à Naples. Depuis la veille, l'assassin était entre les mains de la justice. Appliqué à la question, Marzio avoua tout. Sa déposition fut à son tour envoyée à Rome, où il devait la suivre de près pour être confronté avec ceux qu'elle accusait. En même temps, Jacques, Bernard, Lucrezia et Béatrix furent décrétés d'arrestation. Leur prison fut d'abord le palais de leur père, où l'on mit une forte garde de sbires. Mais bientôt, les indices devenant de plus en plus graves, ils furent conduits dans le château de Cortesavella. Là, ils furent confrontés avec Marzio, mais ils nièrent obstinément non seulement leur participation au crime, mais encore qu'ils connussent l'assassin. Béatrix surtout marqua la plus grande assurance, demandant la première à être mise en face de Marzio, et là elle affirma avec tant de dignité et de calme que le dénonciateur mentait, que celui-ci, la retrouvant plus belle que jamais, résolut, puisqu'il ne pouvait vivre pour elle, de la sauver en mourant. En effet, il dit que ce qu'il avait avancé jusque-là n'était que mensonge et qu'il en demandait pardon à Dieu ainsi qu'à Béatrix. Ni menaces ni tortures ne purent dès lors lui faire dire autre chose, et il mourut, bouche close, au milieu des tourments. Les saints-six se croyaient sauvés. Mais Dieu, dans sa volonté céleste, avait décidé qu'il en serait autrement. Le sbire qui avait tué Olympio fut, sur ses entrefaites, arrêté pour un autre crime. Comme il n'avait aucune raison de cacher les uns plus que les autres, il avoua qu'il avait été chargé par Monseigneur Guerre de le débarrasser de quelques inquiétudes qu'il avait à l'endroit d'un assassin nommé Olympio. Heureusement, Monseigneur Guerre apprit la chose à temps. Alors, comme c'était un homme admirablement habile, il ne se laissa point intimider ni abattre, comme eût fait tout autre à sa place. Et comme, au moment où cette nouvelle lui fut transmise, il avait justement chez lui le charbonnier qui approvisionnait la maison, il le fit entrer dans son cabinet, commença par lui donner une forte somme d'argent pour acheter son silence, puis, lui payant en outre au poids de l'or les vieux et sales vêtements dont il était couvert, il coupa ses beaux cheveux blonds, dont il avait un si grand soin, teignit sa barbe, se barbouilla le visage, acheta deux ânes, qu'il chargea de charbon, et commença de parcourir les rues de Rome, en boitant et en criant, la bouche pleine de pain noir et de ciboule. « Charbon ! Qui veut du charbon ?» Puis, tandis que toute la sbirrerie le cherchait dedans et dehors, il sortit de la ville, rencontra une troupe de condottieri, se mêla à eux et gagna Naples, où il s'embarqua, de sorte qu'on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Cependant, quelques-uns disent, mais sans aucune certitude, qu'il gagna la France, où il s'engagea et servit dans un régiment suisse que Henri IV avait à sa solde. Les aveux du sbire et la disparition de Monseigneur Guerre ne laissaient plus de doute sur la culpabilité des saints-six. Ils furent en conséquence transportés du château à la prison. Les deux frères, mis à la torture, n'eurent point la force de résister et se reconnurent coupables. Lucrezia Petroni, surtout, était si grosse qu'elle ne put supporter la question de la corde et qu'à peine fut-elle soulevée de terre qu'elle demanda qu'on la descendît et qu'elle avoua tout ce qu'elle savait. Quant à Béatrix, elle resta impassible. Ni les promesses, ni les menaces, ni la question ne purent rien sur cette vivace et robuste organisation. Elle supporta tout avec un courage parfait, et le juge, Ulysse Moscati, si renommé qu'il fût en pareille affaire, ne lui tira point de la bouche un seul mot qu'elle n'ait voulu dire. Il référa de tout à Clément VIII, n'osa prendre aucune responsabilité dans une si terrible affaire. Alors le pape, craignant que, séduit par la beauté de la coupable qu'il était chargé d'interroger, Ulysse Moscati n'eût mis de la faiblesse dans l'application de la torture, lui tira la cause des mains et en chargea un autre instructeur, connu pour son inflexible rigidité. Celui-ci recommença toute la procédure relative à Béatrix, repassa sur chaque interrogatoire, et s'étant aperçu que Béatrix n'avait été soumise qu'à la question ordinaire, il ordonna qu'elle serait appliquée à la question ordinaire et extraordinaire. Cette question était, comme nous l'avons dit, celle de la corde, l'une des plus terribles de toutes celles que l'homme, si ingénieuse en torture, ait inventée. Mais comme ces quatre mots, « question de la corde », ne présentent pas à nos lecteurs une idée bien nette du genre de supplice qu'ils désirent, nous allons entrer dans quelques détails à ce sujet. Puis nous donnerons un procès-verbal copié dans les pièces du procès qui sont au Vatican. Il y avait à Rome plusieurs sortes de questions en usage. Les plus usitées étaient la question des sifflets, la question du feu, la question de la veille et la question de la corde. La question des sifflets, la plus douce de toutes, ne s'employait qu'à l'égard des enfants et des vieillards. Elle consistait à introduire entre la chair et les ongles du patient des roseaux taillés en sifflets. La question du feu, qui était fréquemment employée avant qu'on eût trouvé celle de la veille, s'appliquait en approchant les pieds du coupable d'un grand feu, à peu près comme faisaient nos chauffeurs. La question de la veille, dont Marsilius est l'inventeur, consistait à faire asseoir l'accusé sur un chevalet haut de 5 pieds et taillé en angle. Le patient était nu et avait les bras attachés par derrière au chevalet. Deux hommes étaient assis à ses côtés, qui se relevaient toutes les 5 heures et qui, aussitôt qu'il fermait les yeux, l'empêchaient de dormir. Marsilius dit qu'il n'a jamais vu un homme résister à cette torture, mais Marsilius se vante. Farinacci constate seulement que sur 100 accusés appliqués à cette question, il n'y en a que 5 qui n'ont pas avoué. C'est déjà bien flatteur pour celui qui l'a inventé. Enfin, la question de la corde, la plus usitée de toutes et qui était connue en France sous le nom de l'estrapade. Cette dernière torture était divisée en 3 degrés. La torture légère, la torture grave et la torture très grave. Le premier degré, ou la torture légère, consistait dans la peur même de la torture. Elle renfermait la menace de la torture, la conduite dans la chambre de la torture, enfin le déshabillement et la ligature des cordes, comme si l'on allait être appliqué à la torture. Outre la crainte qu'inspiraient ces préparatifs, on remarquera qu'il y avait déjà un commencement de douleur dans la compression des poignets. Ce premier degré suffisait quelquefois pour faire avouer leur crime aux femmes et aux hommes à cœur faible. Le second degré, ou la torture grave, consistait, lorsque le patient était déshabillé et attaché par les poignets, les mains derrière le dos, à passer la corde dans un anneau scellé à la voûte et à rattacher cette corde à une manivelle au moyen de laquelle on pouvait à volonté lever ou baisser le patient, et cela doucement ou par secousse, à la volonté du juge. Cette opération terminée, on lui faisait quitter la terre pendant le temps d'un paternoster, d'un Ave Maria ou d'un Miserere. S'il continuait de nier, on doublait la suspension. Ce second degré de torture, auquel finissait la question ordinaire, s'appliquait lorsque le crime était probable, mais sans être prouvé. Le troisième degré, ou la torture très grave, auquel commençait la question extraordinaire, s'appelait ainsi lorsque le patient, après avoir été suspendu par les poignets pendant un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure ou même une heure entière, était mis en branle par le bourreau, soit à la manière du battant d'une cloche, soit en le laissant tomber de haut en bas, en l'arrêtant tout à coup à quelque distance de terre. S'il résistait à cette question, ce qui était presque inouï, en ce qu'elle coupait les poignets jusqu'aux os et disloquait les membres, on ajoutait des poids aux pieds, ce qui, doublant la pesanteur, doublait la torture. Cette dernière question n'était appliquée que lorsque le crime était non seulement prouvé, mais encore atroce, et qu'il avait été commis sur une personne sacrée comme un père, un cardinal, un grand prince ou un savant. On a vu que Béatrix avait été condamnée à la question ordinaire et extraordinaire. On sait quelle était cette question. Maintenant, laissons parler le greffier. Et comme, pendant tout l'interrogatoire, elle n'avait rien voulu avouer, la fit me prendre par 2 sbires qui la conduisirent de la prison à la chambre de la torture où l'attendait le questionneur. Et là, après lui avoir rasé les cheveux, le questionneur la fit asseoir sur la petite sellette, la déshabilla, la déchaussa, lui lia les mains derrière le dos, les attacha à un câble passé par une poulie scellée au faîte de ladite chambre et revenant s'attacher par le bas à un rouet tournant à la force de 2 hommes et avec 4 bâtons. Et avant que de la faire tirer, l'interrogeâmes de nouveau sur le dit parricide. Mais malgré les aveux de son frère et de sa belle-mère, qui lui furent de nouveau représentés, signés d'eux, elle nia constamment en disant « Faites-moi tirer et faire ce que vous voudrez. Je vous ai dit la vérité et ne vous dirai rien autre chose quand je devrais être démembré. » En raison de quoi, la fit me tirer, ayant, comme nous avons dit, les mains liées aux 10 câbles, jusqu'à la hauteur de 2 pieds ou environ, et l'ayant laissé ainsi pendant tout le temps que nous mîmes à réciter un paternoster, nous l'interrogeâmes de nouveau sur les faits et circonstances du dit parricide. Mais elle ne voulut dire autre chose que ce qu'elle avait déjà dit, ni répondre autre parole que celle-ci « Vous me tuez, vous me tuez ». Nous la fîmes monter plus haut et jusqu'à la hauteur de 4 pieds et commençâmes un Ave Maria. Mais à moitié de notre prière, elle feignit de s'évanouir. Nous lui fîmes jeter un seau d'eau sur la tête. En sentant la fraîcheur, elle revint à elle et s'écria « Mon Dieu, je suis morte, vous me tuez, mon Dieu, mais sans vouloir aucunement répondre autre chose. » Nous la fîmes monter plus haut et dîmes un miserere, pendant lequel, au lieu de se réunir à nous par la prière, elle se remua et s'écria, disant plusieurs fois « Mon Dieu, mon Dieu !» et Derechef, interrogé sur ledit parricide, ne voulut rien autre chose avouer, sinon qu'elle était innocente, et à l'instant s'évanouit. Nous lui fîmes encore jeter de l'eau, alors elle revint à elle, ouvrit les yeux et s'écria « Ô bourreau maudit, vous me tuez, mais sans vouloir dire autre chose. » Ce que voyant, et qu'elle persistait dans ses dénégations, nous ordonnâmes au questionneur de passer à la secousse. En conséquence, le questionneur la souleva jusqu'à la hauteur de 10 pieds, et là, nous l'interpellâmes de nous dire la vérité. Mais soit qu'elle eût perdu la parole, soit qu'elle ne voulut plus parler, elle répondit seulement par un geste de la tête, signifiant qu'elle ne voulait ou ne pouvait rien dire. Ce que voyant, nous fîmes signe au bourreau de lâcher la corde, et elle retomba de tout son poids, de la hauteur de 10 pieds à la hauteur de 2 pieds, et de la secousse, ses bras se retournèrent à l'envers. Elle poussa un grand cri et demeura comme pâmée. Nous lui fîmes jeter de l'eau au visage. Elle revint à elle et s'écria encore une fois « Infâmes assassins, vous me tuez, mais dussiez-vous m'arracher les bras, je ne vous dirai pas autre chose. » En conséquence, nous ordonnâmes qu'il lui fût attaché au pied un poids de 50 livres. Mais en ce moment, la porte s'ouvrit et plusieurs voix crièrent « Assez, assez, ne la faites pas souffrir plus longtemps. » Ces voix étaient celles de Jacques, de Bernard Saint-Cyr et de Lucrezia Petroni. Les juges, ayant vu l'obstination de Béatrix, avaient ordonné la confrontation des accusés qui ne s'étaient pas trouvés ensemble depuis 5 mois. Ils s'avancèrent alors dans la chambre de la question et voyant Béatrix suspendue, les bras luxés et toute couverte du sang qui coulait de ses poignets, « Le péché est commis !» lui cria Jacques. « Maintenant, il faut faire pénitence pour sauver l'âme, supporter de bon cœur la mort et ne point te laisser torturer ainsi. » Alors, secouant la tête comme pour écarter la douleur, « Donc, dit Béatrix, vous voulez mourir. Puisque vous voulez que ce soit ainsi, que cela soit donc. » Puis, se tournant vers les sbires, « Déliez-moi, ajouta-t-elle, lisez-moi l'interrogatoire, et ce que je dois approuver, je l'approuverai. Ce que je dois nier, je le nierai. » Alors Béatrix fut descendue et déliée. Un barbier lui rhabilla les bras en la manière accoutumée. On lui lut l'interrogatoire ainsi qu'elle le demandait, et ainsi qu'elle l'avait promis, elle avoua tout. À la suite de ses aveux, sur la demande des deux frères, ils furent réunis tous dans la même prison. Mais le lendemain, Jacques et Bernard furent conduits dans les cachots de Tordinone. Quant aux deux femmes, elles restèrent où elles étaient. Le pape, à la lecture des aveux qui contenaient tous les détails du crime, fut saisi d'une si grande horreur qu'il ordonna que les coupables fussent traînés dans les rues de Rome à la queue de chevaux indomptés. Mais une sentence si terrible révolta tout le monde, si bien que plusieurs grands personnages, cardinaux ou princes, allèrent humblement se mettre à genoux devant le Saint-Père, le suppliant avec obstination de révoquer son arrêt ou de permettre au moins aux condamnés de présenter leur défense. « Et eux, répondit Clément VIII, ont-ils donné à leur malheureux père le temps de présenter la sienne lorsqu'ils l'ont tué ignominieusement et sans miséricorde ?» Enfin, vaincu par tant de prières, il accorda 3 jours. Aussitôt, s'emparant de cette cause si émouvante, les meilleurs et les plus grands avocats de Rome se mirent à écrire des mémoires et des conseils, et le jour fixé pour la cause, comparurent devant sa sainteté. Le premier qui parla fut Nicolas des Anges, et dès son exorde, il mit dans ses paroles une telle éloquence que l'on comprit, au frémissement de l'assemblée, l'intérêt qu'elle prenait aux coupables. Alors le pape, effrayé d'un tel effet, l'arrêta tout à coup. « Donc, dit-il avec une voix pleine d'indignation, il se trouvera parmi la noblesse des gens qui tueront leur père, et il se trouvera parmi les avocats des hommes qui les défendront. C'est ce que nous n'aurions jamais cru, c'est ce que nous n'aurions même jamais supposé. » À cette terrible admonestation du pape, tous se turent, excepté Farinacci, qui, prenant courage à la pensée du mandat sacré dont il était chargé, répondit avec respect, mais avec fermeté, « Très Saint-Père, nous ne sommes pas venus ici pour défendre les criminels, mais pour sauver les innocents. car si nous parvenons à prouver que quelques-uns des accusés ont agi dans le cas de légitime défense, j'espère que cela sera excusable aux yeux de votre sainteté. Car de même qu'il y a des cas prévus dans lesquels le père peut tuer l'enfant, il en est aussi dans lesquels l'enfant peut tuer le père. En conséquence, nous parlerons quand il plaira à votre sainteté de nous laisser parler. » Clément VIII, alors, se montra aussi patient qu'il avait été emporté, et il écouta le plaidoyer de Farinacci, qui reposait surtout sur ce que Francesco Cenci avait cessé d'être père du jour où il avait fait violence à sa fille. Il invoqua comme preuve de cette violence le mémoire envoyé par Béatrix à sa sainteté, par lequel elle le suppliait, comme avait fait sa sœur, de la tirer de la maison paternelle et de la mettre dans un couvent. Malheureusement, comme nous l'avons dit, ce mémoire avait disparu, et l'on avait eu beau faire les recherches les plus minutieuses à la secrétaire, on n'avait pu en retrouver aucune trace. Le pape se fit remettre toutes les écritures et congédia les avocats qui se retirèrent aussitôt, qui, à l'exception d'Altieri, qui étant resté le dernier, alla s'agenouiller aux pieds du pape, lui disant « Très saint père, je ne pouvais faire autrement que de comparaître devant votre sainteté dans cette cause, étant l'avocat des pauvres, mais je vous en demande humblement pardon. » Le pape le releva avec bonté et lui dit « Allez, nous ne nous étonnons pas de vous, mais des autres qui les protègent et les défendent. » Et comme le pape avait à cœur cette cause, il ne voulut point dormir de toute la nuit et se mit à l'étudier avec le cardinal de San Marcello, homme très intelligent et très expérimenté en cette matière. Puis, son résumé fait, il le communiqua aux avocats, qui en demeurèrent satisfaits et qui commencèrent à espérer qu'il serait fait au condamné grâce de la vie. Car d'après toutes les informations, il était prouvé que si les enfants s'étaient levés contre leur père, du moins tous les torts et tous les outrages venaient de lui, et que ces torts et ces outrages étaient surtout tels vis-à-vis de Béatrix qu'elle avait en quelque sorte été tirée par les cheveux jusqu'à cet énorme crime par la tyrannie, la scélératesse et la brutalité de son père. Ce fut donc sous l'empire de ce retour à des sentiments de rémission que le pape ordonna que les accusés fussent de nouveau conduits au secret et permis qu'on leur laissât même entrevoir l'espérance de la vie. Rome respirait, espérant comme cette malheureuse famille et joyeuse, comme si cette grâce privée était une grâce publique, lorsque les bonnes intentions du pape s'évanouirent à la nouvelle d'un nouveau crime. La marquise de Santa Croce venait d'être tuée, à l'âge de 60 ans, par Paul de Santa Croce et son fils, et cela atrocement, de 15 à 20 coups de poignard, parce qu'elle ne voulait pas lui promettre de le faire son seul héritier. Le coupable avait pris la fuite. Clément VIII s'épouvanta en voyant se dresser devant lui ces deux crimes presque jumeaux. Cependant, il était forcé, pour le moment, de se transporter à Montecavallo, où, dans la matinée suivante, il devait consacrer un cardinal comme titulaire de l'église de Sainte-Marie-des-Anges. Mais dès le lendemain, qui était le vendredi 10 septembre 1599, il fit venir vers 8 heures du matin Monseigneur Taverne, gouverneur de Rome, et lui dit « Monseigneur, nous vous remettons la cause des Cenci entre les mains, afin qu'il en soit fait par vous bonne justice, et cela le plus tôt possible. » Monseigneur Taverne quitta aussitôt sa sainteté, et étant rentré dans son palais, il convoqua une réunion de tous les juges criminels de la ville, réunion dans laquelle les Cenci furent condamnés à la peine de mort. La sentence définitive fut aussitôt connue. Et comme cette malheureuse famille inspirait un intérêt toujours croissant, beaucoup de cardinaux coururent toute la nuit, soit à cheval, soit en carrosse, pour obtenir qu'au moins l'arrêt fût exécuté secrètement et dans la prison pour les femmes, et qu'il y eut grâce accordée à Bernardino, pauvre enfant de 15 ans, qui, n'ayant pris aucune part au crime, se trouvait cependant enveloppé dans la condamnation. Et celui qui se donna le plus de peine et de travail pour cette cause fut le cardinal Sforza, qui, cependant, ne put rien tirer de sa sainteté, pas même une vague espérance. Farinacci seul, en faisant naître un scrupule de conscience, parvint à obtenir du pape que Bernardino aurait la vie sauve, et cela seulement le samedi matin, après de longues et instantes prières. Mais déjà, dès la veille, les congrégations des Confortieri s'étaient rendues aux deux prisons de Corte Savelle et de Tordinone. Cependant, comme les préparatifs de cet immense drame qui devait se dérouler sur le pont Saint-Ange avaient pris toute la nuit, ce ne fut que vers 5 heures du matin que le greffier entra chez Béatrix et Lucrezia Petroni pour leur lire la sentence. Toutes deux dormaient, sans se douter de ce qui s'était passé depuis 3 jours. Le greffier les réveilla pour leur dire que, jugées par les hommes, il fallait qu'elles se préparassent à paraître devant Dieu. Béatrix fut d'abord écrasée du cou. Elle ne trouvait ni parole pour se plaindre, ni habit pour se vêtir, et se leva de son lit, nue et chancelante, comme si elle eût été ivre. Bientôt, cependant, la parole lui revint, et s'échappa par des cris et des hurlements. Lucrezia écouta cette nouvelle avec plus de force et de constance, et commença de s'habiller pour se rendre à la chapelle, exhortant Béatrix à la résignation. Mais celle-ci, toujours comme insensée, allait se tordant les bras et se frappant la tête contre la muraille, s'écriant seulement « Mourir, mourir, qu'il faille mourir ainsi à l'imprévu, sur un échafaud, sur un gibet, mon Dieu, mon Dieu !» Cette crise alla croissant jusqu'à un paroxysme terrible, après lequel, le corps ayant perdu toute sa force, l'âme reprit la sienne. Dès ce moment, elle fut un ange d'humilité et un miroir de constance. Ses premières paroles furent pour demander un notaire qui fit son testament. Cette demande lui fut aussitôt accordée. Et dès que l'homme de loi fut arrivé, voulant en finir d'un seul coup avec la terre, elle lui en dicta les conditions avec beaucoup de calme et de régularité. Elle termina ce testament en demandant que son corps fût déposé dans l'église de Saint-Pierre in Montorio, que l'on voyait du palais de son père, et à laquelle elle avait une dévotion toute particulière. Elle laissa 500 écus aux religieuses des stigmates et ordonna que, de sa dot, qui se fût montée à 15 000 écus, on maria 50 filles pauvres. Quant à la place où elle devait être enterrée, elle choisit le pied du maître-autel, sur lequel était le beau tableau de la Transfiguration qu'elle avait si souvent admiré pendant sa vie. Lucrezia, édifiée par cet exemple, commença alors à son tour ses dispositions dernières. Elle demanda que son corps fût porté dans l'église de Saint-Georges-en-Velabre, avec 32 écus d'aumône et plusieurs autres legs pieux. Ces soins suprêmes accomplis, les deux femmes se réunirent d'un seul cœur pour adorer Dieu et, se mettant à genoux, commencèrent à réciter les psaumes, les litanies et les prières des agonisants. Elles restèrent ainsi jusqu'à la 8e heure de la nuit, où elles demandèrent la confession et entendirent la messe, pendant laquelle elles communièrent. Puis, par ces saintes préparations ramenées aux plus humbles sentiments, Béatrix fit observer à sa belle-mère qu'il n'était point convenable qu'elle parût sur un échafaud avec des habits de fête. Elle ordonna donc 2 vêtements, un pour la signora Lucrezia, l'autre pour elle-même, recommandant qu'ils fussent faits à la manière des religieuses, c'est-à-dire montant jusqu'au cou et plissés, avec des manches longues et larges. Celui de la signora Lucrezia était d'étoffe de coton noir, celui de Béatrix était de taffetas. Elle avait fait faire en outre un petit turban pour poser sur sa tête. Ces différents vêtements leur furent apportés avec des cordes pour se ceindre. Elles les firent alors poser près d'elle sur une chaise et continuèrent de prier. Le moment fixé étant venu, elles furent averties que leur heure suprême était proche. Alors Béatrix, qui était encore à genoux, se levant avec un visage calme et presque joyeux, « Madame ma mère, dit-elle, voilà l'instant où notre passion va commencer. Je pense donc qu'il serait temps de nous préparer et de nous rendre l'une à l'autre le dernier service, de nous habiller comme nous en avions l'habitude. » Alors elles revêtirent les robes préparées, se ceignirent le corps avec les cordes, et Béatrix, ayant posé son turban sur sa tête, elles attendirent ainsi leur dernier appel. Pendant ce temps, on avait lu la sentence à Jacques et à Bernard, et ils attendaient de leur côté aussi le moment de la mort. Vers les 10 heures, la congrégation de la Miséricorde, qui était florentine, arriva à la prison de Tordinose et s'arrêta sur le seuil avec le Saint Crucifix, attendant les pauvres jeunes gens. Là, il manqua d'arriver un malheur grave. Comme beaucoup de personnes étaient aux fenêtres de la prison pour en voir sortir les patients, quelqu'un poussa un grand vase de fleurs plein de terre, lequel tomba dans la rue et manqua de tuer un des confrères, justement de ceux qui, tenant à la main des torches allumées, marchaient devant le crucifix. Ce vase passa si près de la flamme que le vent l'éteignit. En ce moment, les portes s'ouvrirent et Jacques parut le premier sur le seuil. Il s'agenouilla aussitôt, adorant avec une grande dévotion le Saint Crucifix. Il était vêtu d'une large cape de deuil qui le couvrait entièrement et sous laquelle il avait la poitrine nue, car tout le long du chemin, le bourreau devait le tenailler avec des tenailles rouges qui attendaient dans un réchaud fixé sur la charrette. Il monta dans la voiture où le bourreau l'accommoda à sa manière et pour sa plus grande facilité. Alors Bernardino sortit à son tour et, au moment où il parut, le fiscal de Rome dit ces paroles à haute voix. « Seigneur Bernascensi, au nom de notre bienheureux Rédempteur, notre Saint-Père le Pape vous fait grâce de la vie, se contentant d'ordonner que vous fassiez compagnie à tout votre sang, jusqu'à l'échafaud et jusqu'à la mort, vous recommandant de ne point oublier de prier pour ceux avec qui vous deviez mourir. » À cette nouvelle inattendue, il se fit un grand murmure de joie dans la multitude, et les pénitents lui délièrent aussitôt la petite planche qu'il avait devant les yeux, car à cause de la faiblesse de son âge, on avait cru devoir lui cacher la vue de l'échafaud. Alors le bourreau, qui avait fini avec Jacques, descendit pour prendre Bernard, et après s'être fait représenter la grâce, il lui ôta les menottes, et l'ayant placé sur la même charrette que son frère, il l'enveloppa d'un manteau magnifique tout frangé d'or, car le pauvre enfant avait déjà le cou et les épaules nues, devant avoir la tête tranchée. Quelques-uns s'étonnaient de voir entre les mains de l'exécuteur un si riche manteau. Mais on leur dit que c'était le même que Béatrix avait donné à Marzio pour le décider à l'assassinat de son père et dont le bourreau avait hérité après l'exécution du meurtrier. La vue de tout ce monde fit une telle impression sur le petit Bernard qu'il s'évanouit. Les chants commencèrent et la procession se mit en route, se dirigeant vers la prison de Corte Savella. Arrivé devant la porte, le Saint Crucifix s'arrêta pour attendre les femmes. Elles sortirent bientôt, se mirent à genoux sur le seuil et firent à leur tour leur adoration. Puis le cortège se remit en marche. Les deux femmes venaient après la dernière file des pénitents, marchant à pied l'une après l'autre, ayant chacune la tête couverte jusqu'à la ceinture, avec cette différence que la signora Lucrezia, en sa qualité de veuve, portait un voile noir et avait des pantoufles de la même couleur, à hauts talons, avec des touffes de ruban, ainsi que c'était la mode de l'époque, tandis que Béatrix, comme jeune fille, avait un béret de soie pareil à la soubre veste, avec une panne brodée d'argent qui lui tombait sur les épaules et recouvrait sa soutanelle violette, des pantoufles blanches à hauts talons ornées de bouffettes d'or et de franges cerises. En outre, toutes deux avaient les bras libres et seulement attachés avec une corde lâche afin que chacune pût porter un crucifix d'une main et de l'autre son mouchoir. Dans la nuit du samedi, un grand échafaud avait été dressé sur la place du pont Saint-Ange et sur cet échafaud, on voyait préparer la planche et le billot. Au-dessus du billot était suspendu, entre deux traverses, un large fer qui, glissant entre deux rainures, descendait de tout son poids sur le billot au moment où l'on détendait un ressort. Ce fut donc vers le pont Saint-Ange que s'achemina la procession. Lucrezia, qui était la plus faible des deux, pleurait amèrement, mais Béatrix avait le visage calme et ferme. Arrivés à la place du pont Saint-Ange, les femmes furent aussitôt conduites dans une chapelle où l'on amena bientôt près d'elles Jacques et Bernard. Ils y restèrent un instant réunis tous quatre. Puis on vint chercher d'abord Jacques et Bernard pour les conduire sur l'échafaud, quoique l'un ne dût être exécuté que le dernier et que l'autre eût sa grâce. Mais en arrivant sur la plateforme, Bernard s'évanouit une seconde fois. Et comme le bourreau allait à lui pour lui porter secours, quelques-uns, croyant que c'était pour l'exécuter, crièrent à haute voix « Il a sa grâce !» Le bourreau les rassura en faisant asseoir Bernard près du billot. Jacques se mit à genoux de l'autre côté. Alors le bourreau descendit, alla vers la chapelle et ramena d'abord la signora Lucrezia qui devait être exécutée la première. Arrivé au pied de l'échafaud, il lui lia les mains derrière le dos, lui déchira le haut de son corsage afin de découvrir ses épaules et lui fit faire sa réconciliation en l'invitant à baiser les plaies du Christ. Cela fait, il la conduisit à l'échelle qu'elle eut grand-peine à monter, étant fort grasse. Puis, aussitôt arrivé sur la plateforme, il lui arracha le voile qui lui couvrait la tête. Ce fut une grande honte pour la signora Lucrezia d'être vue ainsi le sein découvert, et, regardant le billot, elle eut un frémissement d'épaule qui fit frissonner toute l'assemblée. Alors, les larmes aux yeux et d'une voix élevée, elle dit « Oh mon Dieu, ayez pitié de moi, et vous, mes frères, priez pour mon âme !» Puis, ces paroles dites, et comme elle ne savait de quelle façon se placer, elle se tourna vers Alexandre, le premier bourreau, et lui demanda ce qu'elle avait à faire. Il lui répondit d'enjamber la planche et de s'étendre dessus, ce qu'elle fit avec une grande peine et une grande honte. Mais alors, comme elle ne pouvait, à cause de son sein élevé, poser son cou sur le billot, il fallut y ajouter un morceau de bois pour le hausser. Pendant tout ce temps, la pauvre femme attendait, souffrant plus encore de la honte que de la crainte de la mort. Enfin, elle fut accommodée convenablement, le bourreau lâcha le ressort, et la tête, détachée du tronc, tomba sur l'échafaud, où elle fit deux ou trois bonds au grand frémissement de la multitude. Enfin, le bourreau la saisit et la montra au peuple. Puis, l'enveloppant d'un taffetas noir, il la posa avec le corps dans une bière au bas de l'échafaud. Pendant qu'on remettait toutes les choses en place pour Béatrix, des gradins chargés de monde s'abîmèrent. Beaucoup furent tués par cet accident, et plus encore, estropiés et blessés. La machine arrangée et le sang lavé, le bourreau retourna dans la chapelle pour y prendre Béatrix, qui, ayant aperçu d'abord le Saint Crucifix, dit quelques prières pour son âme, et, voyant venir le bourreau avec des cordes à la main, s'écria « Dieu veuille que tu lis ce corps pour la corruption et que tu délies cette âme pour l'immortalité. » Alors, se relevant, elle sortit sur la place où elle baisa dévotement les plaies du Christ, puis, laissant ses pantoufles au bas de l'échafaud, elle monta lestement l'échelle. Et comme elle avait pris d'avance ses informations, elle enjamba vivement la planche, s'ajustant avec le plus de promptitude possible la tête sur le billot, afin qu'on ne vît pas ses épaules nues. Mais, quelques précautions qu'elle eût prises pour que la chose fût promptement faite, il lui fallut attendre, car le pape, connaissant son caractère emporté et craignant qu'elle ne commît quelque péché entre l'absolution et la mort, avait donné l'ordre qu'au moment où Béatrix serait sur l'échafaud, on tira comme signal un coup de canon du château Saint-Ange. Ce qui fut fait au grand étonnement de tout le monde, car personne ne s'attendait à cette détonation, pas même Béatrix, qui se leva presque debout. Aussitôt le pape, qui était en prière à Montecavallo, donna à Béatrix l'absolution in articulo mortis. 5 minutes se passèrent donc encore à peu près, pendant lesquelles la patiente attendit, le cou replacé sur le billot. Puis, quand le bourreau crut l'absolution donnée, il lâcha le ressort et le couperet tomba. Alors on vit un effet étrange. Tandis que la tête bondissait d'un côté, le corps se recula comme marchant en arrière. Aussitôt, le bourreau prit la tête et la montra au peuple. Puis il l'accommoda comme il avait fait de l'autre et voulut mettre le corps de Béatrix avec celui de sa belle-mère. Mais les confrères de la miséricorde le lui prirent des mains et comme l'un d'eux voulait le placer dans la bière, il lui échappa et tomba de l'échafaud à terre et dans cette chute, tout le torse sortit de ses vêtements, de sorte qu'étant plein de poussière et de sang, il fallut perdre beaucoup de temps pour le laver. À cette vue, le pauvre Bernardino s'évanouit une troisième fois, et cela si profondément qu'il fallut lui donner du vin pour le faire revenir. Enfin arriva le tour de Jacques. Il avait vu mourir sa mère et sa sœur, et ses habits étaient couverts de leur sang. Le bourreau s'approcha de lui et lui arracha son manteau. Alors on vit par toute sa poitrine les morsures des tenailles brûlantes. Et il y en avait tant que son corps en était couvert. Aussitôt, il se leva ainsi, à moitié nu, et se tournant vers son frère. « Bernard, lui dit-il, si dans mon interrogatoire je vous ai compromis et chargé, je l'ai fait faussement, et quoique j'ai démenti cette déclaration, je répète au moment de paraître devant Dieu que vous êtes innocent et que c'est une justice atroce que celle qui vous a condamné à cet épouvantable spectacle. » Alors le bourreau le fit mettre à genoux, lui attacha les jambes à une des traverses qui s'élevaient sur l'échafaud, et lui ayant bandé les yeux, il lui brisa la tête d'un coup de masse. Puis, au même instant et à la vue de tous, il coupa son corps en quatre quartiers. Aussitôt cette boucherie terminée, la compagnie se retira, emmenant Bernard, et comme il avait une forte fièvre, on le saigna et on le mit au lit. Quant au cadavre des deux femmes, ils furent accommodés, chacun dans sa bière, sous la statue de Saint-Paul, au pied du pont, avec quatre torches de cire blanche qui brûlèrent jusqu'à 4 heures de l'après-midi. Puis, enlevées alors avec les morceaux du corps de Jacques, elles furent portées à Saint-Jean-des-Collets. Enfin, vers 9 heures du soir, le corps de la jeune fille, tout couvert de fleurs, revêtu des habits dans lesquels elle avait été exécutée, fut porté à Saint-Pierre in Motorio, avec 50 torches allumées et accompagné des frères des stigmates et de tous les religieux franciscains de Rome. Là, elle fut, comme elle l'avait désiré, enterrée au pied du maître-autel. Le même soir aussi, selon qu'elle l'avait recommandé, la signora Lucrezia fut portée de son côté dans l'église de Saint-Georges-en-Vélabre. Au reste, on peut dire que Rome tout entière avait assisté à cette tragédie et que les carrosses, les chevaux, les gens à pied et les charrettes étaient les uns sur les autres. Par malheur, ce jour fut si chaud et si ardent que beaucoup de personnes s'évanouirent, que beaucoup rentrèrent avec la fièvre et que beaucoup encore moururent pendant la nuit pour être restés au soleil pendant les 3 heures que dura cette exécution. Le mardi suivant, 14 septembre, à l'occasion de la fête de la Sainte-Croix, la compagnie de Saint-Marcel, avec privilège particulier du pape, délivra de prison le pauvre Bernard Cinci sous l'obligation de payer dans le courant de l'année 2500 écus romains à la compagnie de la très sainte Trinité du Pont Six, ainsi que cela se trouve encore aujourd'hui consigné dans ses archives. Maintenant, si, après avoir vu la tombe, vous voulez vous faire de celle qui y repose une idée plus positive que vous ne pourriez la prendre en un récit, allez visiter la galerie Barberini. Vous y trouverez, avec 5 autres chefs-d'œuvre, le portrait de Béatrix fait par le guide, les uns disent pendant la nuit qui précéda l'exécution, et les autres au moment où elle marchait au supplice. C'est une délicieuse tête coiffée d'un turban d'où retombe une draperie, avec de riches cheveux châtain clair, des yeux noirs où l'on croit voir encore la trace de larmes à peine essuyées, un nez parfait et une bouche d'enfant. Quant au teint, qui était très blanc, on en jugerait mal si l'on s'en rapportait au portrait, la peinture ayant poussé au rouge et les chairs étant devenues couleur de brique. Celle qu'elle représente paraît avoir de 20 à 22 ans. Près de ce portrait est celui de Lucrezia Petroni. On voit à la dimension de la tête qu'elle appartient à un corps plutôt petit que grand. C'est le type de la matrone romaine dans toute sa fierté, avec ses chairs colorées, ses belles lignes, son nez droit, ses sourcils noirs et son regard à la fois impérieux et humide de volupté. On y retrouve, au milieu de ses joues rondes et potelées, ces fossettes charmantes dont parle le chroniqueur et qui faisaient qu'après sa mort, elle semblait encore sourire, une bouche admirable et des cheveux bouclés sur le front qui, retombant le long des tempes, encadraient merveilleusement son visage. Quant à Jacques et à Bernard, comme il ne reste d'eux ni dessin ni peinture, nous sommes forcés d'emprunter leur portrait au manuscrit où nous avons puisé tous les détails de cette sanglante histoire. Les voici tels que les donne son auteur, témoin oculaire de la catastrophe où ils ont joué un rôle. Jacques était petit, avait la barbe et les cheveux noirs et pouvait être âgé de 26 ans environ, bien fait de corps et fort de sa personne. Quant à Bernardino, le pauvre enfant était tout le portrait de sa sœur, de telle façon que lorsqu'on le vit paraître sur l'échafaud, avec ses longs cheveux et sa figure de jeune fille, beaucoup crurent d'abord que c'était Béatrix. Il pouvait avoir 14 ou 15 ans. Dieu leur fasse paix.